Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de YouJob, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de recevoir une dame que vous allez découvrir ce soir. Certains peut-être la connaissent déjà, d'autres vont découvrir une merveilleuse dame. Je suis désolé d'être aussi emporté, mais je sais que vous êtes assez connecté en ce moment. Vous nous suivez à travers notre web radio, vous nous suivez à Kinshasa à travers notre fréquence 94.7 UFM. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux pour poursuivre les discussions. Parce qu'ici, nos discussions seront assez larges mais courtes en même temps. On n'a que moins d'une heure du temps pour échanger. Ce soir, j'ai le plaisir de discuter avec une dame sur une thématique qui est très importante. On parle d'entreprise, d'entreprendre dans l'industrie culturelle et créative en RDC. Nous allons donc découvrir les expériences des Mira Dinoyer, à qui j'ai dit bonsoir.
Bonsoir, Clocéphie.
Un plaisir de te recevoir enfin dans YouJob.
Je suis très contente, merci beaucoup.
Vraiment, c'est nous qui sommes, je pense, plus contents de rentrer dans l'univers du storytelling, des contes, mais surtout de la créativité et de la culture, ce qui te représente d'ailleurs. J'ai été présente comme conteuse, experte en storytelling africain, photographe, opératrice culturelle, créatrice des contenus, gestionnaire de projets. On peut aller d'ailleurs un peu plus loin, et tout ça, c'est toi. Et ce qui généralise tout cela, c'est ton entreprise. Tu es la fondatrice de Yelezama Solo. Yelezama Solo, une entreprise que tu as lancée depuis combien d'années?
Alors, je l'ai légalisée en 2022.
2022.
Mais l'idée a commencé en 2020. Bon, on en parlera.
Ouais. Vraiment. Alors ça, c'est très bien. Tu as également lancé un festival, Yafrika Festival, qui existe depuis un bon temps.
Exactement, depuis 2021. Et on a fait 2 éditions, on en fera une 3e.
Ça, c'est parfait. Alors, c'est quoi ton secret de faire aussi mieux, par exemple, sur LinkedIn, où tu es suivi par plus de 16 000 personnes, un réseau social difficile d'abord, et peu de Congolais réussissent à faire autant d'abonnés. Et comment tu as réussi à faire cela?
Alors, avec LinkedIn, déjà, ce qui est drôle, c'est que c'est mon réseau social préféré. Parce que en fait, aujourd'hui, on est très accru sur le nombre d'abonnés et non sur les résultats. Après, ça dépend de est-ce que je veux publier un truc parce que je veux attirer de l'attention et rien d'autre. Ça veut dire que tu sors chez toi, tu es tellement bien sapé et tout ce que tu veux, c'est les regards des gens, mais pas des personnes qui vont te dire « Monsieur Claude, vous êtes bien habillé ». Tu vois ce que ça fait?
Oui. Les phénomènes tapinent. Donc aujourd'hui, publier juste pour attirer.
Oui, les gens veulent juste ça, juste pour attirer les regards. Alors que moi, c'est pas ça. Moi, je pense que moi, je suis une marque, je suis un produit et mon histoire doit impacter des milliers de gens. Je ne cesse d'en parler. Chaque histoire mérite d'être racontée. Et donc, sur LinkedIn, je suis restée moi-même, fidèle à moi-même. J'ai choisi mon canal, quelque chose qui pourrait fusionner tout ce que je suis. Tellement, je fais beaucoup de choses. Et donc, à travers le storytelling, je raconte mes aventures, mes histoires, même mes peines de cœur. Il m'est arrivé de raconter une histoire sur une histoire qui n'a pas marché, une histoire amoureuse. Et les gens étaient là en train de commenter parce qu'en fait, finalement, tous ces corporates, c'est des humains. En fait, ce n'est pas des robots derrière.
Voilà. Alors ça, c'est parfait. Vous comprenez déjà quelle sauce nous sommes en train de préparer ce soir. Alors, on parle d'entreprendre dans l'industrie culturelle et créative en RDC. On rentre dans tes expériences. Tu es là depuis plusieurs années et tu as réussi à te faire ton nom et tu es invité partout. C'est presque pas des semaines. Tu ne passes pas une semaine sans avoir une activité. C'est très fort en tout cas pour une dame et pour tout ce que tu fais. Et au départ, j'ai posé une question, c'est quoi ton secret par rapport à LinkedIn? On va dire, qu'est-ce qui te motive et c'est quoi ta force pour faire aussi bien?
Alors, je pense que chaque annonce est renouvelée. Il y a un problème. Avant, je pensais qu'il fallait qu'aller de gloire en gloire voulait forcément dire qu'on ne doit jamais faillir, qu'on ne doit jamais tomber, qu'on ne doit jamais recommencer. Alors qu'aller de gloire en gloire, moi, je pense que c'est apprendre. Je dis ça même en termes de finances. C'est vrai que dans le milieu salarial, tu as commencé comme stagiaire, tu n'as pas le même salaire. Ensuite, tu deviens peut-être junior, et puis tu deviens senior, et puis cadre, et puis, je ne sais pas moi, fondateur ou quoi, mais ce n'est pas les mêmes salaires. Alors, moi, j'ai pensé à d'autres stratégies, parce qu'il y a des périodes, on ne doit pas se mentir, les vaches maigres et les vaches grasses, ça existe vraiment. Et donc, des fois, certains acteurs ou entrepreneurs ou même artistes peuvent être braqués en mode « Oui, mais moi, mon cachet, c'est souvent 5K. » Tu vois, je donne un exemple. Après, tu es dans une phase où les gens peuvent te donner 5K, tu es frustré et donc tu ne travailles pas. Moi, je me suis dit non, en fait. Il faut poursuivre d'autres objectifs. Des fois, il y a des moments où il faut avoir un portfolio. C'est constituer un portfolio et c'est challenger. C'est dire « Ok, j'ai pu compter lors d'un spectacle, lors d'un festival, j'ai pu compter lors d'une conférence qui a parlé de telle thématique. Là, c'est jeudi, je dois compter pour parler de l'histoire de l'Est. » Et forcément, ça va attirer des gens. Mais il y a des moments où il faut juste savoir se remettre en question et se dire « L'année 2023, ce n'est pas forcément cette année. Tu n'as pas les mêmes finances, tu n'as pas le même regard. Et donc, il faut changer différemment. Et comme tu parlais de LinkedIn, c'est un réseau social très difficile, en fait. L'algorithme, franchement,
très compliqué.
J'ai dit les autres. Il y a des moments où tu sens « Waouh !» Je regarde
c'est mes ta meilleure publication, mais qui ne reçoit pas cet enthousiasme.
Oui, exactement. Et c'est là maintenant que moi, j'ai arrêté de regarder les « j'aime ». Je regarde les impressions parce que tu sais que ça donne cette possibilité de voir les impressions, le nombre de personnes atteintes. Et toutes les personnes qui m'ont contacté m'ont dit « On est touché par tes histoires. » J'ai dit « Attends, mes petites histoires de « Oui, j'ai ramassé la cuillère », tu vois ? » Des petites choses comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, derrière toutes ces vestes, il y a des êtres humains. Et toutes ces personnes me disent « Tu nous racontes les histoires de notre enfance. » Donc, je pense que ma force, c'est dans le fait de s'améliorer. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas un robot. J'ai appris à l'accepter. Parce que je suis une accrue au travail, j'aime trop travailler. Quand je finis un projet, je vais aller sur un autre. Mais là, j'ai appris à m'écouter, à stopper et à ne vraiment pas courir. Bon, déjà, là-bas, je cours avec personne, je cours avec mes ambitions, mais à ne pas négliger ce que j'ai déjà fait comme réalisation. En fait, c'est comme ça, sur LinkedIn, j'ai commencé à publier sur mes... Je me suis dit, je vais publier sur mes anciennes réussites, les choses que j'ai eu à faire, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui à me peine. Découvrent à nouveau, et donc, peut-être qu'ils ne savent pas que je suis photographe.
Vraiment, ça c'est un aspect, je pense, depuis un moment, tu n'as pas mis en valeur. Hein, alors que tu lis également, on va avancer. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'entreprendre dans l'industrie créative aujourd'hui avec Yeliza Masolo, alors que plus de personnes vont peut-être dans des activités qui sont, je vais dire, qui proposent des produits, qui proposent des services différents à l'industrie de la culture.
Yeah, je suis très contente parce que moi j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait l'architecture d'intérieur et la photographie, voilà. Mais quand j'étudiais, en fait, après je ne reproche pas à mes amis artistes, mais quand j'étudiais, j'avais horreur de faire l'art pour l'art. Je me disais, l'art doit être utile à la société, l'art doit résoudre un problème. La culture doit être utile à la société, la culture doit résoudre un problème. Et après, en faisant des recherches, j'avais l'impression que j'étais un peu folle parce que je n'avais pas encore trouvé les justes mots pour ça.
Donc l'art a de quoi résoudre des problèmes dans la société.
Dans la société, exactement. Et c'est ce que les autres utilisent aussi. Ça peut servir aussi d'influence, des trafics, de soft power, surtout. Parce qu'on voit ça à travers les instituts français, Wallonie-Bruxelles, c'est du soft power. C'est de la culture belge, c'est de la culture française transmise, mais sans vous dire, allez, on vous assujettit. Maintenant, vous nous appartenez, pas forcément. Et donc, moi, quand j'ai découvert les industries culturelles et créatives, j'ai dit, alléluia, alléluia. Franchement, ça résout mon problème. Parce que comment on peut faire en sorte que l'art soit utile aux individus, mais aussi à toi, que ça soit lucratif? Parce que la plupart des artistes, on a souvent des ASBL, des ONG ou des collectifs. Rares sont ceux qui ont vraiment des entreprises. C'est comme ça, quand j'ai commencé en 2020, j'ai commencé comme une chaîne YouTube. J'avais vraiment pas l'idée que j'allais créer une entreprise. Moi, je voulais créer une entreprise dans la maroquinerie.
Encore, il y a également, tu sais comment fabriquer de...
Non, je ne sais pas comment fabriquer, okay,
mais ça t'est passionné.
Ça m'est passionné, en fait, la maroquinerie, parce que moi, j'aime les petits trucs, les gadgets, j'aime le cuir, pas pour les chaises, mais pour les montres, pour les chaussures.
Belle
pour
précision,
le...
pas pour les
oui,
chaises.
Oui, non, j'ai des... fait chaud. Franchement, je n'aime pas trop le cuir sur les chaises, je trouve que ça chauffe, bon, voilà, ça se dégrade aussi facilement, surtout dans notre climat ici, qui n'est pas, le climat tropical qui n'est pas trop bien. Donc après, quand en 2022, j'ai la révélation, en fait, pour moi, des fils en aiguille, c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter. Quand j'ai fait la deuxième édition du Festival Yafrika, je me dis, il faut que je sois légale, en fait. Il faut que je me légalise. Quand je vais aller voir toutes ces grandes marques, ces entreprises, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que moi, en fait, je suis le genre de personne, autant je suis rebelle, mais autant j'aime respecter les normes. J'aime pas les choses qui vont m'embarrasser, qui vont mettre dans les gênes. Comment ça te dit, madame, ok, d'accord, mais vous avez une entreprise, est-ce que vous avez un compte entreprise, tu vois? Je voulais être prête et donc j'ai légalisé. On m'a dit, oui, fais une ASBL. J'ai dit, non, moi, je vais faire une entreprise, je vais gagner de l'argent avec. Parce que mon modèle, parce franchement, mes modèles par excellence pour moi, aujourd'hui, c'est Netflix et Disney. Vu que je suis dans le compte, je regarde Disney. Disney, toute sa vie, ça a été que le compte. Ça a été que ça. J'ai dit, waouh, il n'a fait que ça.
Ah oui, c'est des comptes qu'ils nous vendent. Hein. Voilà. C'est des comptes qu'ils nous vendent et c'est rentré même. On a été vraiment à un moment passionné par ces histoires, par ces dessins animés.
Cendrillon, c'est un conte. Ouais,
c'est rentré même dans la culture populaire, voir qu'on n'a on a pas des traits culturels semblables, si on parle même traditionnellement parlant, mais ces dessins animés, ces histoires ont quasiment effacé nos histoires.
Yeah, exactement. Parce qu'en plus, moi, j'ai une histoire qui reste... ça ne me revient pas trop à l'esprit directement, mais ça ressemble un peu à Cendrillon. Ah oui, je me rappelle. C'est... Penzi et les cruches mystérieuses. Okay. Quand je raconte cette histoire-là, j'ai dit aux enfants, je dis, c'est un peu comme Cendrillon. Tu vois, je suis obligée de donner cette référence parce qu'elle est connue. Après, ce n'est pas de la faute de tous ces enfants-là, mais ce qui est choquant, parce que moi, quand j'ai découvert, c'est que Walt Disney n'a jamais été conteur. Il n'a jamais écrit de contes. Walt Disney a récolté des légendes urbaines, des contes racontés par-ci, par-là. Il a trouvé des scénaristes qui ont écrit. Et c'est tout. Et je me suis dit, attends, il n'a fait que ça. Il a créé des produits dérivés. Aujourd'hui, par exemple, la famille Madrigal, quand c'est sorti, il y a eu des poupées, il y a eu des habits. Il a créé Disney World, Disneyland, qui tous les jours fait entrer de l'argent. Il y a même des hôtels, tu peux loger à Disney World dans la chambre de Pocahontas si tu veux.
Et Disney qui aujourd'hui est le plus grand empire cinématographique des États-Unis, qui est d'ailleurs le premier pays.
Il a racheté Marvel et tout.
Disney a construit, parce que Disney naît en tout cas dans le storytelling et des contes.
Exactement, oui, exactement. Avec ça, Mickey Mouse et tout.
Alors, ça, c'est bien surtout pour... et je comprends donc que c'était quelque chose qui a motivé. Mais comment cette aventure a vraiment commencé?
Alors, comme j'ai dit, bon, déjà à la base, la chaîne YouTube, je la crée comme ça. En fait, à 18 ans, quand je découvre qu'on a les cheveux crépus, je me dis, je vais arrêter de couper les cheveux. Je vais arrêter de me défriser les cheveux plutôt, parce qu'à Kisangani, on me brille les cheveux et tout. Et donc, je me dis, j'arrête de défriser les cheveux. Mais entre-temps, j'arrête de défriser les cheveux. Qu'est-ce que je fais d'autre? Parce que je n'ai connu que ça. Depuis toute petite, on me défrisait les cheveux. C'est bête, à 18 ans, de découvrir que l'être noir a les cheveux crépus. Et donc, je fais des recherches. C'est quoi les cheveux crépus? Comment le traiter? Qui sommes-nous? C'est beau. Et là, je commence à me rappeler que je voyais des gens avec des cheveux différents, qui avaient des cheveux un peu volumineux, qui s'entremêlaient, un peu croulés. Je disais, mais pourquoi ils ont ces cheveux-là? Et en plus, il y a un truc, c'est que quand les enfants naissent, on les coupe toujours ces cheveux-là. Moi, je disais, mais pourquoi on coupe les enfants? Pourquoi on ne les laisse pas avec leurs cheveux? Oh non, ceux qui ont mal à moi, cola. C'est ce qu'on dit, en fait. Il y a bien un cola. Il y a ma belle. Non, c'est quoi cette histoire? Donc après, je découvre que les Africains ont inventé des choses, ils sont à la base de beaucoup de créations. Et moi, je me dis, waouh, non, il faut que j'en parle. Parce que moi, je suis le genre de personne, quand je découvre une chose, j'aime en parler. Quand je regarde un film, j'aime en parler. Je suis comme ça, en fait. Je suis quelqu'un de très extraverti. Donc c'est comme ça, j'ai dit, il faut que je crée une chaîne. Sauf que je veux commencer en 2019, mais je n'ai pas le temps. Et quand Covid-19 vient, ben, c'est riz sur les gâteaux. J'avais déjà mon matériel et je commence timidement. La qualité était au top, mais les sons, non, parce que je n'étais pas vidéaste. J'ai dû apprendre aussi les montages et tout, et j'ai acheté les matériels audio. Et puis, j'ai commencé à faire mes vidéos, comme j'étais déjà bonne en commune, parce que je suis aussi consultante en communication. Oui. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai fait du bruit. Tout le monde m'appelait maintenant Madame Elisa Massolo, j'en ai parlé. Et LinkedIn a été mon créneau, parce que j'avais étudié que là-bas, déjà LinkedIn, c'est une plateforme qui coûte énormément beaucoup de mégas. Si tu n'as pas assez de mégas et que la qualité de la connexion n'est pas au top, elle ne s'ouvre pas. Voilà. Et les gens qui sont là-bas, c'est donne un genre. Et ces genres-là, la plupart, ils le sont. Ils sont ce qu'ils prétendent être. Et d'autres veulent être ce qu'ils ne sont pas encore. Bref, ce qui est sûr, tout le monde va vouloir dire « je suis ». Alors que sur Facebook, c'est souvent le blague. Il y avait aussi Facebook gratuit, tout ça. Donc, quand j'ai publié mes vidéos, les liens, les gens me disaient « oui, j'ai vu », mais ils n'ont pas vu. Tu poses la question, tu dis « ah oui, j'ai pas de méga ». Ils vont dire « j'aime », ils mettent des « j'aime », mais ça ne s'engage pas. Alors, c'est comme ça. À l'époque, j'avais, je pense, 3000 personnes que je suivais, je les réécris personnellement. Bonjour, monsieur Clostefi, je suis Mira, j'ai ma chaîne YouTube et les Amasolo qui valorise l'écriture et histoire d'Afrique. Bonjour, tel, je suis nananana. Message personnalisé, les gens me répondaient. Et un jour, j'étais choquée parce qu'une dame m'a dit, moi, l'écriture africaine ne m'intéresse pas. Et elle était noire. J'ai dit, waouh, elle est aliénée.
Elle est noire, mais les cultures africaines, ça ne l'intéresse pas. C'est grave. Mais moi, je note quelque chose de très, très intéressant, c'est que tu as bien étudié les différentes plateformes. Mm-hmm. Tu as compris que sur LinkedIn, les gens lisent vraiment pour lisent.
Exact.
Ce n'est pas quand quelqu'un qui vient liker. Sur LinkedIn, ce qui est sûr, quelqu'un vient commenter parce qu'il a vraiment lu. Mm. Quelqu'un vient liker parce qu'il a vraiment aimé. Tu verras qu'il y a plus d'impressions. Peut-être que les gens n'ont pas liké, mais ils ont vu. Mm-hmm. Donc, c'est un aspect qui a servi énormément et ça a motivé quelque chose.
Oui, ça m'a motivé parce qu'en fait, même pour la suite, LinkedIn, parce qu'il y a mon mentor, j'en parle souvent, Monsieur Serge Ezekiel Mputu, un peu de Libanga, ça fait du bien. En fait, il me disait, Mira, il faut que tu travailles sur ton branding. Il m'a toujours dit ça. Parce que nous, les gens qui faisons les beaux-arts, nous, les artistes, hein, généralement, on aime rester dans notre style artistique. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les salpettes. Vraiment, combinaison, salpette, je kiffe. Pantalon, basket, j'aime ça. Talon, tout ça, là, comme je suis là. Mmh. Donc, des fois, je mixe les deux. Donc, les gens me disent toujours, Marie, tu es habillée comme une corporate, il y a toujours un côté artistique. Donc, là, on peut voir par exemple là sur mon petit bracelet et tout. Et donc, il me disait, travaille ça. Et LinkedIn m'a aidé à travailler ça aussi. Parce que c'est là, ça a été la plateforme pour. Et cette plateforme m'a challengé. Je te donne un exemple. C'est vrai qu'il ne faut pas suivre les yeux des gens. Mais je ne savais pas que les gens me suivaient vraiment. Parce qu'il y a des gens qui me rencontrent, on dirait une petite star. Hein.
Ah oui,
Madame
ça,
Mira
ça, moi je confirme, en tout cas, Mira est une star des LinkedIn, oui.
Et puis, on me dit, Madame Mira, c'est vous, Mira Dunoyé, Faïguéné. Je dis, oui, j'aime ce que vous faites. Et je me rappelle un jour, un monsieur, il était avec sa femme. Il m'a vu vers Éthiopien, j'allais acheter les billets et tout. Il est descendu de sa voiture. Il m'a dit, Madame, je suis sûre que sa femme était un peu jalouse. Il m'a dit, Madame, j'aime ce que vous faites. Je dis, mais attends. Et puis, il me donnait des noms. Moi, je ne me rappelle pas. Donc, je me rappelle parce que moi, je poste. Et puis, quand je commente les trucs des autres, c'est stratégique toujours. Mm-hmm. Oui, parce que ouais, il faut rester stratégique et tout. Et puis, un jour, j'ai commencé à avoir un peu honte. J'ai dit, mais attends, il faut que tu aies les standards de vie que les gens pensent que tu as, tu vois. Mm-hmm. Et puis, je pense, tu sais, attends, je te livre ça vraiment. Ça m'a même poussé à acheter ma voiture.
Oh.
Parce que je me suis dit, attends, c'est vrai que j'ai acheté ma voiture pour les côté technique, logistique, parce que je presse des fois soir, tard plutôt, et que mon matériel photo, j'ai pas envie de monter sur la moto ou de louer les taxis
faut bien
finalement.
Protéger les matériels,
voilà, ça revenait à la même chose. Et puis je voulais rentrer et revenir aux heures que je veux, quoi, pas dépendre parce que oui, à l'arrêt, il n'y aura plus les transports et puis tambou les bétaka. Tu vois comment c'est des fois.
Pas c'est toujours évident.
Yeah. Mais les gens me voir tout le temps, j'étais dans mon.
À un moment, quand on devient déjà star, il faut se réserver un peu, être moins visible aussi et savoir quand même bien travailler l'image. Est-ce que tu avais compris, tu as dit, est-ce que tu as commencé à travailler aujourd'hui? C'est encore très, très, très intéressant. Alors, tu as su te créer cette identité particulière de Kanté. Et en tout cas, aujourd'hui, quand on parle des conteurs, des conteuses, je ne vois pas d'autres noms en premier lieu à part Mira. Alors, d'où est née cette connaissance aussi approfondie sur les contes africains?
Alors, déjà, moi, je parle beaucoup. C'est énervé, ma mère. Un jour, j'ai dit à ma mère, je lui ai posé la question, je lui ai dit, j'avais 14 ans, je crois, j'observais la poule. Je lui ai dit, mais attends, maman, pourquoi la poule ne fait pas pipi? Elle était trop fâchée.
C'est quoi cette question?
Elle m'a dit, je n'aime pas les enfants comme toi, tu parles trop et tout et tout. Et durant mon adolescence, j'ai beaucoup écrit, hein. Il y a une autre facette de moi, je pense, en 2025, je vais plus l'exploiter, c'est le côté écrivain, parce que je sais que c'est dans le sang. Durant mon adolescence, j'ai beaucoup écrit, j'ai inventé des histoires, j'ai écrit des scénarios aussi qui sont en train de retranscrire à l'ordinateur et tout, toujours dans la fiction, beaucoup d'imagination. Et à chaque fois que j'ai suivi un film, je venais raconter à mes amis. Donc là, je parlais, et un jour, j'étais avec Don Sosemé, la slameuse, mon amie, je lui ai dit, Do, j'aimerais te payer pour raconter. Elle m'a dit, oui, mais Mira, tu es drôle, peut-être tu pourrais te lancer dans l'humour. Donc, on ne savait pas encore quel était mon créneau. L'humour, pas trop, parce que je ne suis pas non plus vraiment humoriste des sangs, même s'il m'arrive
mais
de faire rire.
Il y avait déjà un goût de réciter.
Exactement, de réciter et tout. Et je ne savais pas encore ce que c'était. Et après, j'ai tenté un truc qui avait vraiment foiré, parce que je ne l'ai jamais posé, parce que pour moi, c'était vraiment un échec. C'est que j'organise un truc que j'avais nommé King Babel. King Babel, parce que je voulais qu'on raconte des anecdotes, des légendes urbaines sur Kinshasa. et King Babel parce que ça revient à la tour de Babel, cette confusion, ces brouhaha et tout. Donc j'ai nommé ça King Babel. Et donc j'ai fait appel à un ami à moi, je ne sais pas qui est humoriste et tout. Je lui ai dit, écoute, je veux faire ça avec toi. Et on les fait à Miezi, à Sayo.
Centre culturel Miezi.
Miezi, oui. Et donc on les fait et tout. Et lui, il raconte la chose, l'histoire de la chose, là, le conte. Pas les spectacles, le conte pour la première fois. Parce que moi, j'avais trop honte pour raconter ça. Et je n'avais pas encore trouvé les mots. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pudique aussi. Je n'avais pas trouvé les mots adéquats. Mais lui, il raconte ça de manière crue. Parce que déjà, il faisait beaucoup des humours sur la sexualité, ce genre de choses et tout. Donc, j'ai fait ça. Et puis moi, je raconte. Sauf que moi, je voulais être... je m'étais mise dans la tête qu'il fallait que je sois drôle. Non, je suis une conteuse, tu vois. Et donc, et aussi, étant adolescente, je voulais être musicienne. Je suis contente parce que le conte m'a permis de me réconcilier avec mes talents. Des musiciennes aussi, parce que je chante bien et j'aurais voulu être chanteuse.
Oh là là.
Dieu sait que j'aurais voulu. Et avec mes amis, on était même partis au studio.
Par
moi, pour te dire, on m'appelait Zao. Quand on était à l'école secondaire. Oui, toutes les personnes qui ont étudié avec. Oui, parce que j'ai limité.
Alors aujourd'hui, je pense que ces talents de chanteuse n'est pas parti. Hein.
C'est pas parti parce que ça revient dans mes comptes. Dans mes comptes, à chaque fois, il y a toujours une chanson que je mets. Il y a toujours une chanson et tout. Et je l'ai bien exploité. Après, en 2022, c'est là où, en 2021, quand j'organise Ma Solo et Africa pour une année de ma chaîne YouTube, Ma Solo et Africa qui devient les festivals et Africa, je compte. Pour la première fois, mais pour moi, c'est pas compté. Moi, je raconte tout simplement. Moi, je dis, je vais raconter l'histoire que j'ai racontée sur ma chaîne YouTube sur le premier samouraï noir au Japon. Et je raconte l'histoire du samouraï noir. Donc, les gens sont contents, ils me disent, c'est bien et tout, je raconte et tout. Mais pour moi, je deviens conteuse et je suis consciente en 2022. Quand, parce que moi, je travaille. Après, j'ai fait beaucoup de vie. J'ai l'impression que j'ai fait beaucoup vécu.
Énorme, énorme.
Quand je travaille à l'Institut français, la directrice m'appelle et me dit, Mira, écoute, on voudrait mettre en place un spectacle de contes autour de l'écologie. Alors moi, je m'emballe. Parce que moi, la créativité, c'est mon fort. Je dis, il faudrait qu'il y ait ça, qu'il y ait ci. Et puis, elle m'a dit, oui, tu connais des conteuses. Et donc, moi, je dis, oui, Jovita Songwa. À Jovita, j'ai dit, oui, deuxième conteuse. J'ai cherché, il y a une dame que j'ai rencontrée il y a longtemps, mais je n'avais plus son numéro. Donc, je ne trouve pas son numéro. Et puis, je cherche. Elle dit, mais... Et la directrice me regarde, l'ancienne directrice, Elodie Chabert, elle me regarde et dit, mais Mira, pourquoi tu cherches l'un de tes là?
Elle te veut toi, parce qu'elle a déjà, elle a senti.
Oui, j'étais emballée, j'ai dit, ok, donc pour moi c'était un challenge. Donc, de manière amatrice, je compte pour la première fois devant les gens et je suis payée pour. Je pense que c'est ça la beauté aussi, c'est d'avoir un talent, d'y croire et d'être payée pour. Donc, on crée la scène, la scénographie, comment ça sera, direction artistique, c'est nous. Je fais les budgets, je soumets. Parce que moi, soumettre un budget, faire les budgets, débattre, c'est mon truc. En fait, le compte est venu dans ma vie où moi, j'avais déjà beaucoup de compétences de gérer les projets. Ce qui fait que, tu vas voir que pour mon spectacle, j'ai déjà commencé la com. En fait, ça doit rentrer dans l'esprit des gens. Les gens qui voient l'affiche, ils disent, on l'avait déjà vu. Et c'est comme ça que je compte pour la première fois. Ensuite, on compte encore en 2023. Et puis, je me dis, je vais démocratiser le compte. Je commence à compter lors de mariages. Je commence à compter lors des événements corporate. Après, je commence à étudier que le compte, en fait, il peut servir de plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, je propose mes services aux ONG pour leur dire que le compte peut les aider à résoudre les conflits.
Okay.
Parce que c'est une manière de transmettre. En fait, j'ai appris au Mali, les griots, que ce sont des médiateurs. Au Mali, il y a un poste pour des griots. Au gouvernement.
Wow.
Ils servent de médiateurs entre...
Quand même, on entend souvent parler des griots. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a essayé un peu d'oublier.
Exactement.
Et ce que tu es en train de revisiter.
C'est exactement ça. Et le conte, c'était pas... Parce que les gens, quand ils voient le conte et un conteur, ils pensent que c'est un fou du roi qui doit amuser la galerie et tout. Non. Un conteur va te relater les faits, les prouesses des héros. Un conteur va te relater les faits actuels. Et un conteur peut être aussi un prophète. Parce qu'il va même te relater des choses à venir, des choses qui vont venir, des choses qui peuvent se passer et tout.
Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, derrière les contes et ce que tu développes du jour au lendemain. À un moment, tu nous as parlé de ton expérience au Mali, par exemple. Alors, quand on parle des contes, de la culture, c'est un peu quel peuple en Afrique qui t'a le plus marqué?
Les West Africains. Et les gens ont tendance à croire que je me marierai avec un West Af.
Okay.
Et je pense que de manière... Parce qu'à l'école, quand on nous racontait ça, le Mali, Soundiata Keïta, tout ça, je ne sais pas, il y avait une certaine nostalgie. le peuple mandingue, les tout-couleurs, ça nous faisait rire parce que comment ils appellent les tout-couleurs, les peuls. En fait, j'ai eu ces influences-là. Je ne sais pas, je les ai beaucoup admirées. Mais c'est vrai que j'admire énormément le royaume Congo, plus que beaucoup de royaumes, parce que je trouve qu'ils étaient excellents. Excellents, ils avaient une hiérarchie magnifique, la société était bien constituée, ils avaient l'enzyme comme monnaie. Et ce qui est flagrant, ils avaient même des universités, des écoles, ils avaient un peuple d'élite. Et c'est ces peuples d'élite-là qu'ils ont envoyés en Europe bien avant la colonisation. J'aimerais même faire des recherches pour retracer tous ces Noirs qui sont partis en Europe avant la colonisation sans être esclaves. Il y en a eu. Voilà, donc c'est incroyable. Donc les West Africains m'impressionnent beaucoup parce que la culture est encore très présente. Et pour eux, ce n'est pas étonnant. Alors qu'ici, je dois tout le temps expliquer c'est quoi un conteur, ça consiste en quoi. Après, quand je dis « Ah, ça me rappelle ma grand-mère qui racontait. » Mais nous, on n'a pas eu vraiment des gens qui ont pratiqué les métiers pour en faire leur vocation. Eux, les griots, font partie d'un caste. Et donc, c'est quelque chose qui se lègue des familles en famille.
Alors que de plus en plus, ce n'est pas le cas dans notre pays. Moi, à peine encore, je me rappelle quand j'étais petit, ça arrivait quelques fois qu'on s'assoit en famille, qu'on rencontre des histoires. Mais ces phénomènes n'existent plus. Voire même on parle de Sambolé, on parle de histoire, raconte comme on faisait quand on était petit. Lissapoongé. Ça n'existe plus. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est possible de réinventer ou de ramener encore ces habitudes?
Oui, c'est ce que je fais. En tout cas, moi, c'est ce que je fais de manière un peu plus concrète. Je pense que moi, je dis toujours dans un pays assez difficile et on doit être clément envers soi-même. Parce que si on veut avancer au même rythme que les autres, c'est un peu dur. Par exemple, les temps que ça m'a pris, parce que depuis 2020, après j'ai rencontré des gens, parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, beaucoup de gens m'ont fait des propositions. Mais comme je ne voulais pas tomber dans des fourberies où on va me faire des propositions et puis après je perds mon projet, je ne voulais pas. Je ne voulais pas et tout. Mais les temps que ça m'a pris 4 ans, je pense que dans notre pays, en 2 ans, on aurait déjà mis en place beaucoup de choses. Mais après, il y a toujours une évolution, il y a des choses qu'on découvre avec le temps aussi. Donc moi, par exemple, j'ai commencé par la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je compte beaucoup dans des événements parce que c'est une manière de sensibiliser.
De vulgariser d'ailleurs.
Voilà, je veux que
les gens rentrent avec des souvenirs, et des témoignages même. Oh non, j'ai vécu ça.
Exactement.
Ils comprennent. Et j'aime bien cet aspect où les contes, ce n'est pas seulement à l'école, ce n'est pas seulement dans des événements spécifiques.
Et ce n'est pas que pour les enfants. Il y a des contes pour adultes en fait. D'où mon spectacle, mais on en parlera. Et donc, quand je compte à des événements comme ça, c'est une manière de préparer les gens à accueillir mon produit. Parce que dernièrement, j'ai rencontré la ministre de la Culture et tout. Et donc, l'une de ses conseillères, elle m'a dit, je lui ai montré ma chaîne, elle m'a dit, cette photo, je la connais. Tu vois ma fameuse photo avec le... En fait, elle est devenue une marque.
Très identifiable.
Oui, elle m'a dit, je la connais, je l'ai vue. Ton spectacle, je l'ai vu, mon Dieu, mais c'est toi. Donc, ça veut dire que c'est une campagne de propagande que je suis en train... Les gens n'ont pas compris, bien sûr, mais pas pour compter. Mais c'est une campagne que je suis en train de faire. Comme ça, quand je lance les produits, les gens ne sont pas si surpris que ça, c'est dire « Oh, Esunine Utiwapi !» Les gens seront mira sortir un livre de contes, ça va se vendre. Je suis sûr, ça va se vendre. Parce qu'en 2025, c'est ça qu'on doit faire sortir.
C'est vraiment très intéressant tout ce qu'il y a comme projet, ou certainement comme manière de faire. C'est vraiment une identité que tu as réussi à te créer et qui devient une marque même. Les témoignages de la conseillère confirment cela. Alors, LinkedIn aujourd'hui est ton réseau préféré, comme tu l'as dit. Mais ce réseau est plutôt réputé être un réseau qui réussit plus au corporate. Comment toi, tu t'es en sortie là jusqu'à en faire d'ailleurs ton réseau le plus important?
En fait, j'ai compris que les gens aiment les histoires. Et il n'y a pas... Moi, parce que tu avais dit aussi que j'étais créatrice des contenus, il m'arrive d'en créer pour les autres. Mais quand il s'agit de moi, vous allez voir que tout tourne autour de moi. Parce qu'à un moment donné... En passant dans plusieurs interviews, on m'a dit « Mais Mira, tu as vécu plusieurs vies. Quand on t'entend, tu as vécu plusieurs vies. » Et c'est vrai. Moi-même, quand je sors de moi-même, façon de parler, je m'observe, je dis « Mira, tu es amusée. » C'est vrai, oui, j'ai 27 ans, mais attends, j'ai vécu. Je peux te dire que ça. Et ça part de la vie que j'ai eue. Déjà, très jeune, je suis tombée malade. À 11 ans, j'ai l'éléphantiasie. Le fait de naître à l'Est et de la RDC, c'est déjà toute une autre histoire que je suis en train d'écrire d'ailleurs. Le fait que ma mère a fui qu'elle est enceinte de moi à l'entrée de l'AFDEL. C'est quelque chose, ça. Ça commence par là. L'éruption volcanique à Goma, j'étais là. Pillage à Goma, j'étais là.
À 11 ans... Témoin de tous ces événements, ça a éveillé quelque chose.
Oui, ça a éveillé quelque chose de manière indirecte. Parce qu'on ne parle pas de trauma. Certains traumas nous boostent. Ça éveille en nous quelque chose. C'est comme, comme on dit, l'instinct de survie. Il ne vient pas quand on mange. Hein. Mais il va venir quand l'arrêt va s'arrêter sur ta gorge. C'est là que ton corps commence à réfléchir à quelle stratégie il va faire pour qu'il sorte cette arête et tout. Donc moi, j'ai toujours raconté mes histoires. Moi, j'ai toujours été vraie, en fait. Je ne m'invente pas une vie. Et après, je ne blâme pas les autres, mais je déteste les citations qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que j'estime que quand tu dis la vie est belle, il faut prendre soin de soi, mais que tu ne les fais pas, je trouve ça étrange. Et j'ai arrêté de me montrer toujours sur mon bon jour. Je parle aussi de mes difficultés, de mes problèmes, de mes peurs, des choses qui m'inquiètent. Je partage tout le temps ça sur LinkedIn et tout. Et voilà. Et les gens, ils s'identifient. Je pense que les gens se sont identifiés, en fait.
Être original et apporter ce qu'il n'y avait pas, mais qui est commun, qui est notre quotidien, les histoires, les gens aiment bien, mais il n'y en avait pas. Est-ce que tu as apporté, si ça a réussi à te faire avancer? Mais comment tu as fait pour te retrouver dans une telle polyvalence aujourd'hui? Tu l'as toi-même dit, tu es jeune, mais tu as vécu énormément de choses. Mais comment tu fais aujourd'hui pour te retrouver aussi polyvalente, dans plusieurs casquettes, en même temps photographe, en même temps gestionnaire de projet, consultante en communication, storyteller?
Je pense que, moi je donne toujours cet exemple-là, je pense que c'est une grosse erreur de nous faire croire qu'il faut faire une seule chose. Cet adage de suivre plusieurs lièvres à la fois, non? Les lièvres ont fui, ok?
Ce n'est pas parce que toi, tu as plus de capacités, peut-être que ton organisme ou bien tes capacités partent bien avec le fait d'aller et de faire beaucoup de choses et que pour certaines personnes, ça n'irait pas.
Je pense que je suis comme ça parce que dernièrement, j'en parlais avec une amie, je lui ai dit... Je suis multitalent, je suis polyvalente et je n'arrive pas à rester sur une seule chose. Je donne un exemple. Tu vas me voir en train de suivre un film. Je continue à suivre mon film, mais je suis en train de lire un article.
Wow.
Ou je suis en train de répondre à un message, ou je suis en train d'écrire un truc et tout.
Et ça déjà, je suis désolé de le dire, mais moi, je n'arrive pas. Même quand je mange, je n'arrive pas à faire autre chose.
Wow.
Quand j'écris un message...
Après, tu es un homme. Les hommes vont être réputés pour être comme ça.
Donc, chez les femmes, c'est
bon, on dit que différent. La majorité... Après, il y a des femmes qui n'arrivent pas, mais on dit que les femmes, elles sont capables. Parce que déjà, parce qu'une femme, elle est mère, elle travaille. Elle allait son enfant, mais elle est en train de piler les pondous. Donc, quelque part, on est un peu préparé à ça. Mais moi, je crois que ça vient du fait que déjà, à la base, je voulais être trois choses. Je voulais être musicienne, écrivaine et photographe. Après, j'ai dû m'adapter. Je me suis dit, je fais trop musique classique, ça ne va pas trop marcher au Congo, c'est la rumba. Je vais plutôt aller faire l'architecture d'intérieur. J'ai fait l'architecture d'intérieur, mais j'ai trouvé la photographie, masterclass photo à l'académie. Donc, j'ai misé sur ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui, moi, me touchaient. Hein. Personnellement, les faits sociaux, la vie de tous les jours et tout. Et puis, je pars apprendre comment faire les jeux, comment créer un jeu, comment mettre en place un jeu, comment faire qu'un jeu soit utile à la société, ce qu'on appelle la gamification. Après, tu commences à voyager, tu rencontres des gens, l'esprit s'ouvre. Et puis, tu apprends la communication pour communiquer sur toi en tant qu'artiste parce qu'il fallait mieux s'y vendre. Et puis en apprenant ça, tu vois que beaucoup d'appels à candidature, c'est en anglais. Tu es obligé d'apprendre l'anglais, tu t'adaptes. Après, tu as besoin de manger, bien sûr, parce que ben, la photographie, on ne fait pas appel à toi tout le temps. Après, tu commences à faire la com pour les gens. Moi, l'Institut français, on m'a appelé, le directeur m'avait appelé. Oui, parce que quand j'avais rencontré en 2019 le chargé de com, l'Institut français, moi tellement je parle bien, je parle beaucoup avec les gens, Je sympathise facilement.
Oui, je dis, c'est un talent inné de communiquer.
Exactement. Je pense que ça vient de mon côté aussi extraverti. Je n'ai pas peur. En fait, je me dis que je suis née pour faire tout. En fait, j'ai toujours eu envie de tout savoir. Et le jour où j'avais su que je ne pouvais pas tout savoir, j'étais triste. J'étais jure, ça m'a pris une semaine. J'ai philosophé, j'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas tout savoir? Et j'ai compris qu'on doit savoir utile. Parce que toutes les informations ne sont pas utiles. Et j'ai compris qu'il y a des choses, en fait, que j'ai apprises il y a longtemps, mais qui, quand je rencontre une personne, elles me reviennent comme par enchantement. Et je me souviens clairement de « Ah oui, ça, il fallait que je dise à cette personne. J'ai vécu telle chose pour tel individu. Il fallait qu'elle sache ce qui s'est passé dans ma vie ou pour qu'elle change. »
Multitalent, multicasquette et compétences. Et ces cocktails te servent, toi, à travailler sur tes événements aussi.
Exactement.
Puisque tu sais gérer le projet, puisque tu sais communiquer, puisque tu sais créer tes comptes, tu t'es créé des événements. Et parmi les événements que tu as créés, le plus important, c'est Yafrika Festival.
Yeah.
Ah, il faut nous raconter. C'est quoi cette aventure? On voit, c'est aussi un événement dont on a beaucoup souvent entendu parler et bonne communication autour de l'événement aussi. Mm-hmm. C'est quoi Yafrika Festival?
C'est vrai que Yafrika Festival a fait des ravages. Mm-hmm. Et dire que ça fait maintenant 2 ans là que je n'ai plus fait la 3e édition, c'était en 2022. Yafrika Festival est né parce que quand j'ai fait ma chaîne YouTube, moi j'aime toujours innover, j'aime pas les choses qui stagnent. La monotonie me fatigue, mais j'ai appris à aimer la monotonie aussi, parce que c'est dans ça qu'on devient expert. Mmh. Si on faisait la même chose encore et encore et encore et encore, qu'on devient expert. Moi, je suis du genre, je passe, mais finalement, tu ne maîtrises pas grand-chose. Mmh. Mais j'ai appris à aimer ça. Donc, en 2021, je me dis, ah, ma chaîne a une année. Pour moi, ma chaîne YouTube, ce n'est pas n'importe quelle chaîne, je suis désolée. Donc, j'organise un événement pour ça. Je me dis, je veux voir comment est-ce que les gens vont accueillir un événement purement culturel, qui parle culture, qui ne mélange pas musique. Parce que tu regardes bien dans les festivals, ils vont aller sur une thématique, mais après, il y aura la musique. Mmh. Ils vont aller sur une thématique, après, il y aura un concert toujours à la fin. Musique. Moi, quand j'ai fait la 2e édition du festival, il y a Africa, parce que j'ai dû renommer, il y a Africa, parce que tous mes produits commençaient à porter les noms Masolo quelque chose. Masolo, il y a Africa. Club Masolo. Et les amants, je dis
Masolo
non.
Masolo partout.
Masolo partout, il y a quoi? Donc, j'ai nommé ça, il y a Africa. Donc, il y a Bisso, bah, africain, quoi. Mmh. Pour Nabisso, tout ça, il y a Bisso, mon quoi, et tout. Et dans la 2e édition, quand j'ai travaillé dessus, je me suis dit, on va parler, parce que ce qui est bien avec ce festival, il aborde chaque... Il y a une thématique hein, pour par édition. Là, pour la 2e édition, c'était le conte et les gens d'Afrique. Ça veut dire qu'on a eu une conférence qui parlait de conte. On a eu des spectacles de conte pour adultes et pour enfants. On a fait venir un Camerounais, on a fait venir des conteurs de l'intérieur du pays et tout. On avait des expositions photos autour de villages d'Afrique, parce que dans le conte, on dit toujours qu'il était une fois dans un village. On a fait des projections vidéo, films d'animation et films de fiction autour des contes et légendes d'Afrique. Tout tourne autour de ça. Les danseurs m'ont écrit, j'ai dit non, c'est pas la danse cette année. Les musiciens m'ont écrit, madame, on peut chanter. J'ai dit non, c'est pas la musique cette année. Et l'année 2025, ça sera autour des danses contées d'Afrique. Qui dit danse dira percussionniste, troupe de danse, exposition photo sur les danses des autres pays d'Afrique. Films documentaires sur les danses et leur importance.
La cible, c'est qui?
La cible, c'est tout le monde. Parce que moi, je me dis, l'Afrique a toujours attiré.
On a souvent
attiré.
Entendu parler quand on dit quand on voit les enfants.
Oui, mais c'est une grosse erreur. Parce que qui transmet le conte aux enfants?
Ce sont des adultes.
Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, Clossy.
Alors, c'est un événement donc, qui aura droit à sa 3e édition prochainement. Mais pendant ces temps...
Mbujimayi, je n'ai pas dit.
Mbujimayi.
Yes.
Ah, ok. Alors,
tu savais que Mbujimayi voulait dire l'eau de la chèvre.
L'eau de la chèvre.
Mbujimayi.
Chèvre. Et puis, Mayi, c'est l'eau.
Et ça a été la première ville, juste après la colonisation, qui a été renommée ville.
Ok. Mbujimayi. Mm. Beaucoup d'anecdotes et donc je vois pourquoi ça devrait être aussi intéressant d'aller faire la 3e édition à Mbujimayi.
Parce que je veux que les festivals commencent à tourner en fait dans le province. Il faut un peu décentraliser Kinshasa. Mm.
Et tu te sens vraiment à l'aise partout. Et toi-même, tu es originaire de l'Est et tu évolues à Kinshasa aussi. Mm-hmm. Et tu vas faire la 3e édition, c'est pas à Goma,
mais à Mbujimayi. Oui, parce que j'estime qu'il faut faire des mélanges, il faut... En fait, pour briser les tribalismes, il faut aller vers les autres. Et on est un seul peuple. Bon, à la base, on ne l'était pas, mais on a été obligé. Donc là, maintenant, il faut vivre avec les contextes actuels et tout. Et je pense que c'est très important.
En ce moment, tu prépares la chose. La chose, on est en train de voir les teasings partout. Mm-hmm. C'était un grand spectacle pour l'année prochaine, en mars. Ce sont des informations juste qu'est là que nous avons. C'est quoi les concepts?
Déjà, quand tu parlais de multipolyvalence, tout ça, je prépare la chose et la 3e édition.
Ouais.
3e édition en juin, la chose en mars. Okay. Mon Dieu, je vais maigrir. Alors, la chose, c'est quoi?
En fait, Mbujimayi.
j'étais
un
dit...
peu plus loin. Mais... Et d'ailleurs, avant de parler de la chose, c'est une question qui me revient, qui est très importante. Comment tu entrevois ça? Tu vas aller organiser cet événement dans un milieu que tu ne maîtrises pas. Bon, je ne sais pas si
je vais faire une descente sur terrain le 1er octobre. Le 1er octobre, je dois aller à Mbujimayi pour voir. C'est comme ça sur Facebook. Bon, on ne se follow pas sur Facebook, mais sur Facebook, si tu regardes ma manière de communiquer, c'est très différent vraiment des LinkedIn. J'embête les gens avec les questions parce que j'aime beaucoup faire les sondages. Il y a un travail que j'aime aussi faire, c'est un peu l'anthropologie, c'est d'étudier l'être humain, les comportements, pourquoi on fait les mêmes choses, tout ça, tout ça. Donc, je leur avais demandé de me dire ce qui était intéressant à Mbujimayi. Donc là, on a déjà un point focal. Une personne de mon équipe m'a trouvé un point focal. Et je vais aller à Mbujimayi, je vais faire au moins 2-3 jours, mais je sais que je vais découvrir des choses que même les gens de Mbujimayi ne savent pas. Parce qu'on arrête de savoir quand on arrête de s'intéresser aux choses. Je crois que c'est une manière aussi de ne plus savoir.
Et parfois, quand on est à un certain milieu, on veut voir d'autres choses. Alors qu'autour de nous, il y a des choses dont on ne tient pas compte qui sont très importantes. Mais avant, il y a Africa Festival, il y aura la chose. Donc c'était dans ça
qu'il y aura la chose, voilà. Alors la chose, c'est quoi? La chose veut parler des sexualités africaines et les rites d'initiation. La chose va mettre en avant une jeune femme qui s'appelle Kwanza. Kwanza, ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à la monnaie, bien sûr, angolaise, mais ça renvoie aussi à la fête de Kwanza. La fête de Kwanza qui s'inspire de ces mots en swahili, matunda ya Kwanza, les premiers fruits. Et Kwanza, ça veut dire aussi commencement. En fait, pourquoi j'appelle ça commencement? Parce que j'estime qu'on ne se pose pas des questions sur la sexualité africaine. Sur qui on est, les rites d'initiation. Il y en avait pourtant. Avant, on avait des sociétés beaucoup plus équilibrées. Et je suis sûre, je mettrais ma main coupée qu'il y avait moins de viols. Parce que les viols, c'est quoi? Les viols, pour moi, c'est comme aussi les vols. Tu veux prendre par force ce qui ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment prendre soin d'une chose qui ne t'appartient pas. Généralement, ce qui ne nous appartient pas, baby, ça en caca. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est à nous, on va en prendre soin et tout. Or, les rites d'initiation préparaient les femmes, tout comme les hommes, à devenir des personnes nobles dans la société. Donc, tout le monde était instruit. Tout le monde savait qu'en face des Clocéphis, je dois me comporter comme ça. Clocéphis savait qu'en face des Miras, je dois me comporter comme ça. Si je veux l'épouser, je dois faire ceci. Voici les actions à poser. Mais nous, c'est quand on veut se marier que on ne sait pas. On ne sait toujours pas, en fait. Et moi, je me dis que c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi après mes études.
On aime bien le mariage coutumier, mais les contours de ce qui est la coutume et la tradition, on n'y va presque pas.
On n'y va presque pas. Et moi, je parlais même de ce qui se passe dans la chambre. Parce que c'est là où il y a beaucoup de catastrophes.
Aujourd'hui, on n'initie plus les enfants. Oui. C'est elles-mêmes qui s'initient.
Voilà. Et ce qui se fait en désordre, en fait, vous. Parce qu'en fait, on est dans une vie où on met au monde des enfants, on leur donne l'argent pour l'école et ensuite on leur dit « voilà ». Comme des chèvres qu'on lasse dans la prairie. Allez, débrouillez-vous. Mais non. Par exemple, pour toutes les personnes qui attendent, je parle de ma famille, qui veut que je me marie. Ma mère biologique ne m'a jamais parlé de la sexualité. Jamais. Jamais elle m'a dit, Mira, regarde comment tu dois être avec un homme. S'il tente ceci, il faut dire non, jamais. Mais elle est la première personne à me demander, Mukwewangui koapi. Ça veut dire, mon beau-fils est où? Je pense que prochainement, qu'il va me poser cette question, je vais lui dire, maman, parlons de sexualité. Les jours que je t'apporte un mou, quoi, je me comporte comment? Comment est-ce que je gère ça, en fait? Et donc, Kwanza, ça va être un personnage qui est magnifique, qui est belle, qui est éblouissante, qui attire tous les regards. Les hommes veulent venir vers elle. Mais sauf qu'elle est inquiète. Comment elle gère cette attirance masculine qu'il y a sur elle? Comment elle gère tous ces hommes qui viennent? Pendant qu'elle n'a pas été préparée. Et ensuite, il y a l'autre fait que tu sais, toutes ces personnes qui nous admirent, forcément, ils vont se sentir un peu frustrés. Parmi eux, il y a toujours ceux qui veulent prendre des forces parce qu'ils n'ont pas la patience. D'où le deuxième teasing là, que je t'ai envoyé, où elle disait que Cassero l'a pris des forces. Cassero a voulu lui faire consommer la chose des forces. Et elle en parlait au roi. Elle allait se plaindre au roi et tout. Donc, elle va découvrir, elle va voir à travers des rites d'initiation liés à la sexualité. Et on parlera aussi de l'excision, parce que l'excision, c'est quand même important. Comment est-ce qu'on enlève le plaisir chez la femme en Afrique de l'Ouest et tout? Et j'ai quand même eu à faire des recherches en étant au Mali.
Alors, énormément de choses qu'on aura à découvrir pendant cet événement.
Excuse-moi, il y aura de la danse, il y aura du likembe qui sera joué, du balafon et tout. Et on aura des mises en scène, un peu les ombres chinoises, tout ça. Ça va être tout un spectacle d'une heure.
Heure seulement. Sera ouvert.
Tu voulais quoi? Trois heures?
Les spectacles, on aime. Alors, sera ouvert... pour tout le monde, les détails viendront.
Ça sera ouvert. Je pense que comme je veux aussi toucher les ados, je pense qu'on pourra prendre. Ça sera ouvert dès 15 ans jusqu'à X.
Ok. Ouais. Ça, c'est très bien, donc, la chose. Et pourquoi la chose?
La chose, parce que, en fait, moi-même, je découvre sur. En fait, c'est compte. La chose vient de mon compte les plus connus. Parce que, tout simplement, parce que c'était passé sur Canal Plus quand j'étais en Côte d'Ivoire l'année passée. Donc, moi, ma tante, parce que moi, je ne t'ai pas dit, quand tu m'as demandé comment j'ai commencé ma vie de conteuse, ma tante maternelle, quand j'étais à l'est, à Butembo, qui est à 350 km de Goma, m'a raconté des histoires, tout ça, et m'a raconté des histoires saines. Mais par contre, à 8 ans, quand j'étais à Kinshasa, l'une de mes tantes, maman Kaindo, qui souffre d'handicap, un jour, elle était ivre et elle m'a raconté deux contes. Dont l'un, le conte de la chose, là. Parce que j'ai pris la chose juste parce que c'est le conte le plus fameux stratégiquement. Mmh. Et comme je voulais parler stratégie, comme je voulais parler sexualité, et que pour moi, la chose renvoie au sexe, à la sexualité et tout, je me suis dit, tant mieux reprendre un titre qui est déjà connu et qui résume les tout. Donc, c'est un peu ça.
On arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut parler de futurs projets? Qu'est-ce que Mira nous propose? On sait déjà qu'il y aura Yafrika Festival l'année prochaine. Il y aura La Chose aussi. C'est les deux exclus que nous connaissons maintenant. Mais je pense qu'il y a encore plus d'affaires dans le coffre.
Donc, je prie d'être prise. Parce qu'on a, il y a un projet avec l'ambassade des États-Unis, Academy for Women Entrepreneurs. D'ailleurs, ils ont lancé leur deuxième cohorte. Nous, on a fait partie du premier cohorte. On a eu des formations. On a soumis nos business plans. Les 14, ici, on aura les résultats. Et moi, j'ai soumis mon projet. Parce qu'à la base, je voulais leur soumettre mon projet de mettre en place un studio de films d'animation. Mais pour l'instant, ça coûte énormément cher. Donc, je vais aller d'abord mollo. On va d'abord sortir un livre de contes avec des illustrations. Et il y aura la version audio que les gens retrouveront sur notre plateforme de streaming qui pourra recueillir d'autres créations d'entrepreneurs congolais, africains, tout ça. Un peu comme Netflix, j'espère un jour arriver comme eux, y arriver. Et ça va être ça. Je pense que ça sera en 2025. Et normalement, le 9 octobre, il faudrait qu'on soit aux États-Unis à Harvard Business School University pour faire aussi des rencontres, continuer encore les... Mais ça sera financé. Donc, si je suis prise, parce qu'ils vont choisir les meilleurs projets qui ont de l'avenir, qui vont vraiment impacter la société congolaise. Et donc, ça va être ça. Les livres aussi vont sortir. Mais même si ça ne se fait pas avec eux, je sortirai ces livres-là.
Ça, c'est fort. Alors, avant de poser ma dernière question, en tout cas, c'est un cadeau. Je pense qu'il faut offrir à nos auditeurs. Ils ont beau entendu, elle est conteuse, mais nous également, on aimerait goûter à cette soupe. Elle n'est pas pour nous ou il faut seulement aller participer à des événements? Oui, c'est vrai. En tout cas, vous devez payer vos billets aussi pour participer à la chose, bien que je pense que... Les places seront d'ailleurs limitées, mais moi j'ai l'appris aujourd'hui de vous offrir ces cadeaux. Est-ce que Mira peut nous faire un petit conte, en tout cas, pour nos auditeurs?
Alors, étant donné que Mira est en train de préparer jeudi un autre spectacle, il faut que je garde ça dans mon esprit, donc je vais plutôt vous lire un des contes que j'ai écrits.
Pas de problème.
Voilà. Alors, ça s'appelle, et en plus, vous serez très contents, chers auditeurs, c'est que c'est une exclusivité.
Ah, c'est une première, en
c'est
tout cas.
C'est une première. Je ne l'ai jamais compté. Je ne l'ai jamais compté. Jamais, ni aux enfants, ni aux adultes.
On aime bien les avant-premières.
Donc, ça s'appelle Les Sorts de Tunda. Dans une contrée lointaine de Swahilifone, vivait la belle et sublime Tunda, fruit en Swahili. Tunda veut dire fruit en Swahili. Elle attirait les regards de tous les hommes de la contrée et des environs. Qui n'aurait donc pas voulu la voir comme épouse? Personne. Les personnes à l'apparence grotesque se bousculaient tout le jour avec des cadeaux précieux et luxueux dans l'espoir de conquérir son cœur. Certains n'avaient que leur bonté et amour à offrir, mais Tunda s'en foutait complètement. « Est-ce que Tunda a un cœur ?» s'est demandé souvent sa tante maternelle. « Oui, tu as peut-être raison, elle n'en a pas. Tous ces hommes riches qui font la queue avec les beaux cadeaux pour la prendre en mariage et elle ne daigne même pas les regarder, » s'énervait sa sœur aînée. Les femmes de la contrée, y compris la grande sœur de Tunda, peinaient à se trouver des époux car tous les hommes étaient épris de la beauté envoûtante de Tunda. Tunda osait leur dire non, car elle-même, et malgré le cœur pur que ces hommes avaient, elle n'était toujours pas d'accord pour leur offrir son cœur en retour. Tunda était une femme fière et ne voulait pas épouser un homme d'apparence banale. Autant elle était belle, elle voulait faire la rencontre d'un bel homme, séduisant et élégant. La beauté la fascinait autant et aucun homme de sa contrée n'était aussi beau à ses yeux. Un jour, le sort lui apprendra ce qu'est la vraie beauté et je jure que je vivrai assez longtemps pour la voir subir son sort, disait souvent sa grand-mère à qui veut l'entendre. Un beau jour, un jeune homme d'une beauté incroyable et hallucinante est venu se présenter devant la case des parents de Tunda. Il était d'apparence très élégante et très raffinée. Tout portait à croire qu'il n'était pas de la contrée. Mais d'où venait-il? Comment avait-il eu écho du désir profond de Tunda? Les parents de Tunda et toute la famille n'hésitèrent pas une seconde à la donner à cet homme d'apparence parfaite qui avait déjà conquis le cœur de Tunda. Le bel inconnu prétendit qu'il était le prince d'un grand royaume. Il était venu en carrosserie et prit Tunda avec lui. Tunda était la femme la plus heureuse sur terre. Elle avait tout ce qu'elle désirait depuis des années. Enfin, les autres femmes pourront se marier, s'est réjouie la grande sœur de Tunda. Tout au long du chemin et au fur et à mesure que l'on s'éloignait de la contrée, la carrosserie du beau prince s'est rouillée. Ses habits devenaient des torchons. Son teint s'est détérioré et par-dessus tout, son physique s'est métamorphosé. La peur s'est dessinée sur le visage de Tunda, elle qui croyait qu'elle avait épousé un bel homme. La pauvre jeune femme commençait à se retrouver petit à petit en face d'une espèce qu'elle n'avait jamais vue et qui, de près, ressemblait à un reptile et pas le moindre, un serpent.
Oh.
Alors que la carrosserie était toujours en marge, Tunda, prise des frayeurs, se jeta en dehors et se blessa. Elle se releva et se mit à courir de toutes ses forces en criant à l'aide. Mais la route était devenue déserte, et de loin, la mer luisait sous le soleil ardent. Il n'y avait personne aux environs. L'homme devenu un gros serpent traîna Tunda vers la mer et plongea avec elle dans les eaux profondes.
Oh là là.
Des années s'étaient écoulées sans que personne n'eût des nouvelles de Tunda et de son beau prince. Les parents et la grande sœur de Tunda s'en foutaient énormément, car au fur des années, ils avaient eu marre du comportement de Tunda et de ses désirs. La grand-mère était la seule concernée et chargeant un jeune homme courageux du village d'aller à la recherche de Tunda, ne serait-ce qu'essayer d'avoir de ses nouvelles. Ces jeunes étaient les seuls à n'avoir jamais fait d'avance à Tunda. Pas qu'elle lui était insensible, mais supposait toujours que Tunda avait besoin de vivre des choses rudes de la vie pour changer de comportement. C'était aussi un homme d'une spiritualité très développée et le jour où Tunda s'était mariée, 2 années s'étaient écoulées, il était dans la forêt sacrée. Le jeune homme suivait des traces de la carrosserie grâce à ses yeux spirituels et ses traces s'arrêtaient au bord de la mer. Il plongea dans la mer et dans le profondeur, il découvrit un royaume marin où le grand serpent de mer se nourrissait des lames de Tunda.
Oh là là.
Ça fait peur.
On aime.
Tunda avait maigri, elle avait fané et était méconnaissable. Elle avait perdu sa légendaire beauté et à cette apparence laide, aucun homme de sa contrée n'aurait voulu la prendre pour femme. Le jeune homme portait avec lui des plantes de la forêt sacrée dont les grands serpents des mers étaient allergiques. Ces plantes provoquèrent chez lui un profond sommeil qu'il fut facile de récupérer Tunda. Il remonta la mer à la nage et déposa Tunda sur les rivages. Il essaya de la guérir avec quelques plantes qui lui restaient. Il avait espoir que cette dernière retrouverait son apparence d'avant, mais il était trop tard. Tunda ne reprit que son souffle. Elle était dès lors devenue une femme quelconque qui n'avait ni éclat ni beauté. Une fois consciente et guérie des maux que lui avaient causés les serpents, Tunda prit le temps de regarder les jeunes hommes et les remercia du plus profond de son âme. Mais elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Tunda eut peur de retourner dans sa contrée, des peurs de subir des critiques et moqueries de ses consoeurs. Elle était encore assez fière pour laisser son amour propre et estime de soi se briser de nouveau. Mais aussi, plus jamais, elle n'allait trouver époux. Qui pouvait encore l'aimer à présent alors qu'elle était devenue laide et dépourvue de son charme d'avant? Pourquoi avait-elle été aveuglée par la beauté corporelle au lieu d'aimer ce qu'un être humain pouvait avoir dans son cœur, la bonté, la charité et surtout le vrai amour? Leçon morale?
Vraiment. Hein,
Seule la beauté du cœur a de l'importance. Le reste n'est que fumée.
Wow. Toundra, donc il y a une très grande leçon morale derrière. On est souvent attiré plus par la beauté, par ce qui...
Et c'est le monde actuel. On a l'impression que c'est un conte ancien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'opposition, je ne sais pas moi, BBL, tout ça pour être beau.
Ça, c'est vrai. En tout cas, merci pour ces contes. J'espère que ça a plu à quelqu'un en ce moment. On arrive déjà à la fin de l'émission. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'échange encore.
Merci beaucoup.
Les contes qui me rappellent encore quelque chose. Les contes, c'est aussi ça. Ça réveille certaines choses. Mm-hmm. Donc, Tunda, moi et toi, on se verra. Alors, un dernier mot. Mm-hmm. Un dernier mot, certainement, à dire à nos auditeurs et à des gens qui te suivent en ce moment.
Alors, je vais leur dire mon mot classique. Apprenez à vous aimer, à vous écouter et vraiment ne pas négliger les talents. Et si vous avez des enfants, il ne faut pas trop les juger. Tu parles trop, tu fais ça, tu nanana, nanana. Moi, je veux former des gens. Et donc, je pense que transmettre les histoires, ça touche énormément. C'est le soft power. Tout ne se résout pas par la guerre, mais le conte peut changer des vies. Et je pense qu'il faut aussi prendre le temps de raconter à nos enfants nos origines, hein. Les enfants qui grandissent, qui ne connaissent même pas papa et de quel village et tout. Et papa qui ne connaît même pas la signification de son nom. Donc ça, c'était un problème, je crois. Il faut qu'on remanie à ça.
Merci Mira, merci de nous avoir amenés, de nous avoir conduits un peu plus loin. On est allé découvrir tes expériences dans l'industrie culturelle et créative où tu évolues. Merci beaucoup. Merci à vous,
toi.
Fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Restez à l'écoute de la 94.7.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.